Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Marrakech vient d'accueillir la 4e édition de l'Africa Investment Forum. Nous y revenons largement au cours de cette émission. Vous entendrez notamment un extrait du message royal qui a été envoyé à l'occasion de cet événement. Nous parlerons aussi des solutions de construction innovantes dans un contexte de séisme et de réchauffement climatique. Comment construire aux normes tout en prévoyant ces évolutions de la nature? Nous ferons le point avec Younes Waziri, le gérant et fondateur d'Ecodome, pour voir notamment comment cette technologie est exportable sur le continent. Quels sont les principaux sujets de coémergence? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
La ville Ocre vient d'accueillir la 4e édition de l'Africa Investment Forum, un événement marqué par le message royal adressé aux participants. Je vous propose d'en écouter un extrait.
C'est ainsi que des initiatives comme le Forum pour l'investissement en Afrique, porté par la Banque africaine de développement, constituent une plateforme bienvenue pour canaliser les investissements privés vers les secteurs économiques les plus prometteurs et renforcer ainsi davantage l'intégration des économies africaines dans les chaînes de valeur mondiales. Excellences, mesdames et messieurs, le contexte international actuel avec ses impacts réels et potentiels sur notre continent nous incite tous à redoubler d'efforts pour rehausser nos capacités productives nationales afin de construire des chaînes de valeur continentales plus solides et résilientes. Nous saluons à cet égard les organisateurs pour le choix du thème de cette 4e édition de ce forum, à savoir « Libérer les chaînes de valeur de l'Afrique ». En effet, comme l'a démontré l'expérience de certains pays, notamment en Asie de l'Est, le développement de chaînes de valeur régionales intégrées permet d'intensifier l'investissement productif dans ces régions et d'accroître la compétitivité des entreprises grâce à une meilleure allocation des ressources. Le retour sur expérience de la promotion des chaînes de valeur régionales comme moyen pour atteindre le développement économique et social démontre que la création d'un système régional de partage de la production a un effet catalyseur sur la croissance et la transformation rapide des économies en développement. À cet effet, nos pays africains sont appelés à adopter une approche intégrée du développement dans notre espace continental qui permettra la mise en place progressive d'un système de production commun basé sur le partage des plateformes. Nous nous félicitons à cet égard du travail accompli par nos instances panafricaines pour la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'inscrit parfaitement dans notre vision pour une Afrique intégrée et prospère. La concrétisation de ce rêve africain permettra d'asseoir les bases pour la création de chaînes de valeur régionales devenues une nécessité pour accroître la résilience du continent face aux chocs exogènes et valoriser son potentiel de production et de prospérité.
Coémergence, l'invité.
Notre invité s'appelle Raki Benchaou, il est le directeur marketing du COD Network. C'est une plateforme basée au Maroc et à Dubaï. Elle est spécialisée dans la vente en ligne. Nous parlons du e-commerce donc sur le continent. Bonjour à vous, Raki Benchaou.
Oui, bonjour, merci de m'avoir.
Merci, le plaisir est pour nous. Alors, tout d'abord, présentez-nous votre secteur d'activité.
Bien sûr, alors COD Network est né de notre propre expérience en tant que vendeur en ligne confronté à des grands défis logistiques et administratifs. Vous savez, en tant que vendeur en ligne marocain ou africain en général, on doit faire face à beaucoup de défis logistiques, administratifs. Comment vendre un produit africain du Maroc ou un produit du Sénégal ou de Côte d'Ivoire vers d'autres pays, vers le monde, comment l'envoyer, comment collecter le paiement, etc. etc. Alors, bien sûr, COD Network, notre mission est de créer une plateforme et un écosystème plug and sell qui facilite tout le spectre de la vente en ligne, du sourcing du produit jusqu'à la livraison au client final et la collecte des paiements. Et c'est ça, c'est une plateforme digitale où on peut gérer tout l'aspect logistique d'un e-commerçant en ligne.
Mmh. Alors, justement, on parlait de ce forum de l'investissement qui se tient à Marrakech. Alors, selon vous, notamment dans ce secteur du e-commerce, comment aujourd'hui faire en sorte d'encourager les investissements et les activités dans ce commerce, dans ce secteur-là?
Bien sûr, alors le forum Africa Investment Forum de Marrakech représente une opportunité exceptionnelle pour nous en tant que compagnie. Il nous offre une plateforme pour nouer des partenariats stratégiques et attirer des investisseurs institutionnels qui peuvent bien sûr accélérer notre expansion et notre développement technologique. Bien sûr, nous, notre expansion en Afrique reflète notre compréhension des défis uniques du e-commerce électronique transfrontalier, spécialement Sud-Sud et Afrique-Afrique, et nous engageons à les surmonter. Nous avons stratégiquement choisi nos emplacements, établi des partenaires logistiques solides, grâce au forum aussi, et nous sommes adaptés aux réglementations et préférence locale pour offrir une solution complète juste pour l'Afrique. Bien sûr, ce forum peut également augmenter notre visibilité, renforcer notre position en tant que facilitateur clé du commerce électronique en Afrique.
Mmh. Alors, justement, parlez-nous de ces activités francophones, d'Afrique francophone notamment, de ces plateformes d'e-commerce comme la vôtre.
Bien sûr, bien sûr. Alors, nos services ont permis aux e-commerçants africains francophones de se connecter à une clientèle plus large, en tenant compte du contexte linguistique et culturel. Le paiement à la livraison, vous savez, en Afrique et aussi au Maroc, il y a encore ce qu'on appelle le COD, le cash on delivery, le paiement à la livraison, qui est encore crucial dans ces marchés. Notre plateforme a rendu cette méthode de paiement plus efficace et fiable. Nous sommes aussi également engagés avec des partenaires locaux, des activités pour soutenir la communauté locale et contribuer aussi à l'économie numérique en Afrique francophone. Bien sûr, les activités comme par exemple, je veux dire, nous, nous permettons à un e-commerçant marocain de vendre dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays francophones d'Afrique, mais vice-versa, nous permettons aussi à un e-commerçant sénégalais ou ivoirien de vendre son produit du Sénégal et être livré au Maroc directement au client final et de collecter son paiement.
Alors, on va parler de ces défis, notamment logistiques, qui se posent par rapport à cet aspect du e-commerce. Mais vous, quel avenir entrevoyez-vous à cet e-commerce sur le continent?
Le secteur du commerce électronique en Afrique est promis à une croissance exceptionnelle. Ça, c'est notre avis, on est sûr de soi. L'amélioration de l'infrastructure, le paiement et la livraison, l'évolution rapide des habitudes du consommateur sont des indicatifs positifs. Et bien sûr, nous, COD Network, prévoit de se développer encore davantage sur le continent en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque marché pour soutenir cette croissance. Alors, pour nous, la croissance, elle est exponentielle et nous espérons qu'elle reste encore ainsi.
Mmh. Alors, vous êtes bien évidemment implanté au Maroc, mais aussi au Moyen-Orient, notamment à Dubaï. Si vous aviez qu'avez-vous à tirer de ces modèles-là en termes de benchmark pour le continent? Comment ces modèles peuvent inspirer les autres pays d'Afrique subsaharienne?
Très bonne question. Alors, bien sûr, l'innovation technologique et la formation sont les choses à retirer, à prendre de plus de ces marchés-là, Moyen-Orient et Asie. Et c'est ce qu'on essaie d'appliquer, c'est la technologie, l'innovation, pour aider les marchands africains à mieux comprendre et exploiter les outils numériques disponibles sur le continent. Bien sûr, on pense, en tant que compagnie, que pour booster le rendement de ces e-commerçants africains, il est essentiel d'améliorer la logistique avec l'innovation technologique Et bien sûr, ce qui est important, simplifier le processus de paiement. Bien sûr, le paiement aussi reste un grand défi dans le continent africain, le cross-paiement, comment collecter le paiement en ligne. Et bien sûr, aussi, il y a aussi l'expérience en tant que comment renforcer la confiance des consommateurs. C'est ce qu'on essaie d'appliquer avec notre expérience qu'on a eue en Asie et dans le Moyen-Orient, sur le continent africain.
Alors, je l'évoquais tout à l'heure, le développement du e-commerce sur le continent est aussi tributaire du développement des capacités logistiques. Est-ce que cela n'est pas aujourd'hui un frein à cela?
Écoutez, c'est le début. Il y a une amélioration croissante de tous ces défis, je veux dire, logistiques. Il y a de nouveaux partenaires, il y a des compagnies qui se forment chaque jour dans les marchés locaux. Et nous, on pense qu'avec notre technologie et les partenaires sur le terrain, ça va s'améliorer à court et moyen terme.
À court, donc.
Je pense que, exactement, surtout dans les pays, on va prendre un exemple Côte d'Ivoire, Sénégal, surtout dans les capitales, je pense que les défis logistiques sont moindres que dans d'autres régions.
Alors, ce sera ma dernière question. On voit que les startups africaines dans ce sens, hein, les fameuses fintech, sont en train d'évoluer positivement. Comment une entreprise comme la vôtre peut contribuer dans l'émergence de tout ce secteur-là du e-commerce sur le continent?
Très bonne question. Ben, écoutez, nous, avant le business aussi, on essaye d'apporter un impact social dans ces marchés-là. Nous ouvrons des marchés internationaux pour les vendeurs locaux. Alors, nous pensons que nous apportons beaucoup de valeurs comme l'emploi, comme l'accès au marché mondial à ces vendeurs et e-commerçants locaux marocains, sénégalais, ivoiriens ou africains. Bien sûr, la fintech, dans le domaine de la fintech, on a de grandes success stories, on a des compagnies qui sont valorisées de milliards de dollars et nous pensons aussi que ce marché, dans les années prochaines, vont répliquer la même valorisation que les entreprises fintech.
On l'espère. Merci à vous, Raki Ben Chaou. Je rappelle que vous êtes cofondateur donc de COD Network, une plateforme basée au Maroc et à Dubaï. Et il est actif donc dans le e-commerce. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci à tous.
Zoom Express.
Nous parlons des solutions de construction innovantes dans un contexte de séisme et de réchauffement climatique. Comment construire aux normes tout en prévoyant ces évolutions de la nature? Nous avons le plaisir de donner la parole à Younes Waziri. Il est gérant et fondateur d'EcoDome, spécialisé dans ce domaine. Bonjour à vous, Younes Waziri.
Bonjour, Monsieur Omar, et merci pour l'invitation.
Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, on sait que l'Afrique n'est pas un continent qui est énormément touché par les séismes, mais quand même, on y ressent le réchauffement climatique. Alors, selon vous, vos solutions peuvent s'imposer sur le continent?
Alors, tout d'abord, je vais introduire EcoDome Maroc pour les gens qui ne connaissent pas son secteur d'activité. EcoDome Maroc est une entreprise de construction écologique, de maisons et de l'infrastructure pour le tourisme rural, en exploitant principalement de la terre locale pour créer des infrastructures qui s'adaptent aux contextes environnementaux, tout en gardant les touches culturelles dans le contexte du Maroc, la touche artisanale purement marocaine par rapport à tout ce qui est finition et par rapport à tout ce qui est design. Quand on parle du climat et du contexte actuel qui relate du séisme, il y a des réglementations dans ce sens. Dans le contexte du Maroc, on parle principalement de deux réglementations. Il y a la réglementation parasismique de construction en terre, qui a été établie en 2011 qui est entrée en vigueur à partir de 2014. Et c'est une réglementation qui donne une panoplie de normes et de règles par rapport à toute conception en exploitant le matériau terre pour qu'on crée des infrastructures qui sont résilientes vis-à-vis les secousses sismiques. Et EcoDome Maroc est parmi les premières entreprises de construction en terre, de construction écologique, qui respectent cette réglementation. Et d'ailleurs, pas mal de nos références qui étaient très proches de l'épicentre du séisme de l'Haouz ont su résister grâce au respect de cette réglementation.
Maintenant, si on braque sur le continent, est-ce que ce modèle est applicable sur le continent sur la base des évolutions et des événements entre guillemets naturels qui s'y produisent?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Maroc, étant un pays africain, il partage avec l'ensemble des autres pays un patrimoine très riche en la construction en terre, et en la construction en exploitant les matériaux locaux, la pierre et le bois. Et avec l'arrivée du béton armé, on commence à oublier un petit peu ce savoir-faire ancestral. Mais il y a toujours cette fibre, cette mémoire d'exploitation de ce matériau qu'on essaie de faire revivre en adaptant les concepts de construction écologique par rapport aux différentes réglementations. Pour répondre d'une manière très directe à votre question, oui, le modèle est duplicable tout en l'adaptant aux touches culturelles de chaque pays africain. Quand on parle des pays, par exemple, subsahariens, quand on parle des pays du sud de l'Afrique, il y a certaines touches culturelles qu'il faut qu'on adapte pour que le design, que ce soit intérieur ou extérieur, soit accepté, acceptable par rapport à la population locale. Mais d'un point de vue purement technique, tout est faisable. On peut adapter et les enduits extérieurs par rapport aux intempéries et la conception par rapport à tout ce qui est accélération sismique ou bien par rapport au contexte sismique de chaque pays.
Mmh. Alors, êtes-vous dans une démarche d'internationalisation et d'exportation sur le continent, mais surtout, sentez-vous l'intérêt de la part des opérateurs du continent de s'approprier ce type de construction?
Parmi les thématiques de l'actualité, il y a et la thématique énergétique et la thématique du changement climatique. Et quand on parle du continent africain, c'est le continent le moins produisant de CO2. Donc on peut le considérer comme un avantage plutôt qu'un frein parce qu'on est dans les débuts des réflexions par rapport à comment on peut concevoir notre secteur du BTP. Et c'est par rapport à cela qu'on se positionne pour créer une infrastructure qui respecte à la fois l'environnement, qui consomme un minimum d'énergie, sachant que le secteur du BTP est le deuxième secteur le plus consommateur d'énergie au monde, après celui du transport. Et la troisième des choses, c'est l'empreinte carbone. Parce que quand on exploite le matériau terre ou bien les matériaux locaux d'une manière très générale, on réduit les coûts de la logistique, qu'on peut donner un équivalent en CO2, en émission en CO2, et on élimine également une bonne partie de l'approvisionnement de la matière première qui est nocive à l'environnement, principalement du ciment. En combinant ces deux facteurs, dans la phase de l'exploitation, on crée un bâtiment qui s'adapte d'une manière très parfaite aux conditions environnementales locales, sans pour autant nuire à tout ce qui est flore et faune locale. Mmh. Et sur le moyen terme et le long terme, le matériau terre, c'est un matériau qui est vivant, qui respire, qui catalyse les taux d'humidité d'une manière très naturelle et qui régule la température également d'une manière naturelle. Et cela a des répercussions très directes sur la facture énergétique qu'on consomme dans ces bâtiments. Mmh. Loin de cela, sur le long terme, si on compte par exemple recycler le bâtiment, puisqu'il est construit en exploitant les matériaux locaux, ça se recycle d'une manière très naturelle et ça se fond très naturellement dans son paysage et dans son contexte.
Merci à vous, Younes Waziri. Je rappelle que vous êtes gérant et fondateur d'Ecodom, qui est spécialisé, je le rappelle, dans les constructions donc, que je qualifierais de naturelles, notamment dans ce contexte de séisme, hein, séisme pluriel bien évidemment, mais aussi de réchauffement climatique à travers donc, le monde et sur le continent. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, merci à vous.
Destination Éco.
Et nous mettons le cap sur l'Afrique centrale et australe pour parler de ce mémorandum d'entente signé par plusieurs acteurs internationaux, dont la Banque africaine de développement. L'objectif est de réaliser le corridor de Lobito. Il s'agit d'un tracé ferroviaire et routier censé relier l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Ce projet comprend 500 km de voies ferrées et 260 km de route. Le corridor de Lobito intéresse particulièrement les Américains et les Européens qui voient au moins de concurrencer les projets chinois en Afrique. Écoutons l'analyse de Henri Nzouzi, spécialiste de l'Afrique.
Le corridor de Lobito, combiné à la ligne ferroviaire Zambie-Lobito, s'étendra du sud au centre de l'Afrique, traversant ainsi la Zambie, l'Angola et la République démocratique du Congo. Une fois achevé, ce projet renforcera un couloir économique reliant ces nations à des marchés mondiaux. L'objectif étant de favoriser la prospérité régionale et le commerce en mettant en avant une vision commune d'un train en accès libre reliant l'océan Atlantique à l'océan Indien. Au cœur de cette initiative, on retrouve trois pays africains majeurs, à savoir la Zambie, la République démocratique du Congo et l'Angola, qui ont signé un protocole d'accord en juillet dernier pour relancer ce corridor qui pourrait devenir le moyen le plus rapide et le plus court d'accéder aux ports depuis les principales zones minières. À ce propos, un consortium dirigé par le trader multinational des matières premières, Trafigura, pilotera ce projet ferroviaire de plusieurs milliards. Du point de vue des États-Unis, cet accord traduit donc leur volonté et celle de ses partenaires de collaborer sur plusieurs secteurs pour libérer le potentiel économique total du corridor. Il est néanmoins intéressant de noter que malgré cette initiative visant à contrecarrer l'influence croissante de la Chine en Afrique, une collaboration sino-américaine semble néanmoins inévitable. Mota Engil, en partie détenue par la China Communication Construction Corporation, a signé un accord pour gérer le corridor de Lobito dans le cadre d'un consortium dirigé par Trafigura. Cette dynamique illustre la complexité et l'interdépendance des investissements et des relations internationales en matière d'infrastructures en Afrique. Enfin, il importe de noter que cette ambition projet de développement est également une réponse à la fameuse Belt and Road Initiative, nouvelle route de la soie, qui est de manière tout à fait opportune une façon de pouvoir contester la présence chinoise sur le continent africain.
Merci à vous, Anine Zouzi, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur les plateformes Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.